Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net.
Ce matin, nous allons nous servir de l'exemple d'Israël pour la conquête de Canaan, pour voir encore certains principes spirituels du combat. Il y a des principes dans le royaume de Dieu auxquels nous ne pouvons pas échapper. Des principes que Dieu a établis pour exercer le combat. Des principes qui sont des principes spirituels tellement importants que si ces principes ne sont pas appliqués dans nos vies, nous risquons des défaites. Et ce matin, donc, je voudrais vous parler de cette entrée en Canaan du peuple d'Israël avec à sa tête Josué. Ce fameux Josué dont le Seigneur avait dit à Moïse de changer son nom en Yehoshua, qui veut dire en hébreu le sauveur. Effectivement, Josué a été un instrument de Dieu pour amener le peuple d'Israël dans le pays de la promesse. Il faut que nous éclaircissions quelques points. Croyez-vous que Israël était un peuple meilleur que les autres? Certainement pas. En Égypte, ils étaient comme les Égyptiens. Donc, en Égypte, ils vivaient au milieu de l'esprit du monde et nombre d'Israélites se conformaient à la vie sociale égyptienne. Il y avait simplement la promesse de Dieu à Abraham. Cette promesse que nous retrouvons, me semble-t-il, en Genèse 15 et verset 16, où Dieu avait fait une promesse à Abraham en lui disant, au bout de 400 ans, que les enfants d'Abraham seraient déportés dans un pays et qu'au bout de 400 ans, ils en sortiraient de ce pays avec de grands biens. Mais il y avait un point très précis que Dieu va donner à Abraham pour bien comprendre qu'Israël n'est pas un peuple qui soit extraordinairement extraordinaire comme on le penserait. Ils sont de la même nature que nous. Ils avaient les mêmes défauts que nous, les mêmes penchants que nous. C'était des hommes comme nous. Mais voici ce que Dieu va dire à Abraham. Il va dire ceci. L'Éternel dit à Abraham, sache certainement que ta semence séjournera dans un pays qui n'est pas le sien. Ils la serviront et l'opprimeront pendant 400 ans. Mais aussi, je jugerai, moi, la nation qui les aura servis. Et après cela, ils sortiront avec de grands biens. Voilà la promesse que Dieu avait fait à Abraham. Que sa semence serait dans un pays où ils seront opprimés, où ils seront asservis pendant 400 ans. Mais parce que Dieu avait juré à Abraham qu'il lui donnerait le pays de la promesse, Dieu a un plan. Dieu ne décide pas spontanément maintenant. C'est un Dieu qui voit loin. Il voit dans l'éternité. Il sait très bien que son plan sera exécuté au rythme de la mesure des hommes. Donc bien avant que la semence d'Abraham soit aussi grande que les étoiles des cieux et que les grains de sable au bord de la mer, Dieu va dire à Abraham, oui, ta semence. Semence qu'il n'avait pas encore, mais que Dieu voyait. Il y avait aussi autre chose que Dieu a dit à Abraham, il dira ceci. Et quand la coupe de l'iniquité des Amoréens et des Cananéens sera arrivée à son comble, alors je vous donnerai le pays. Et ces choses se sont accomplies. Et comme je pourrais dire, Dieu va mettre les points sur les i à Israël en lui faisant une déclaration. Cette déclaration, vous allez la trouver dans Nombre 9. Il est dit ceci. Écoute Israël, tu passes aujourd'hui le Jourdain pour entrer, pour posséder des nations plus grandes et plus fortes que toi, des villes grandes et murées jusqu'aux cieux, un peuple grand et de haute taille, les enfants des Anakim, que tu connais et dont tu as entendu parler. Qui peut tenir devant les fils d'Anak? Et sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu, c'est lui qui passe devant toi. C'est Dieu qui passe devant Israël. Un feu consumant, c'est lui, l'Éternel, qui les détruira. Et lui qui les abattra devant toi. Et toi, tu les dépossèderas et tu les feras périr subitement comme l'Éternel te l'a dit. Ne parle pas en ton cœur. Quand l'Éternel, ton Dieu, les aura chassés de devant toi, disant, c'est à cause de ma justice que l'Éternel m'a fait entrer pour posséder ce pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les dépossède devant toi. Ce n'est point à cause de ta justice, ni à cause de la droiture de ton cœur que tu entres pour posséder leur pays. C'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les dépossède de devant toi, afin de ratifier la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et sache, que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour le déposséder, car tu es un peuple au cou roide. Donc, les points sont mis sur les i. Israël ne doit pas s'imaginer que dans cette affaire, il est pour une cause quelconque. En réalité, Israël sera l'instrument de la justice de Dieu contre les pays de Canaan, contre les habitants du pays de Canaan, les Cananéens. Pourquoi ? Nous allons le voir. Pourquoi Dieu a décidé que ce pays soit donné à Israël, son peuple ? Nous allons le voir. Donc nous comprenons bien l'histoire. Israël, opprimé pendant 400 ans en Égypte, Dieu les fait sortir par son serviteur Moïse. Moïse, à cause d'une désobéissance, n'entre pas dans le pays de la promesse, et c'est Josué qui va faire entrer le peuple d'Israël dans la terre de Canaan. Eh bien, je vais vous dire ce matin, frères et sœurs, dans cette génération, Dieu lève une armée d'hommes et de femmes semblables à la génération Josué. Et nous allons voir comment Dieu va lever ces hommes et ces femmes, c'est-à-dire toi, mon frère, toi, ma sœur. Parce que Dieu va t'éduquer à être rompu au combat spirituel. Dans des Josué, des hommes et des femmes, des jeunes gens rompus à l'art de la guerre spirituelle, car le combat fait rage. Des hommes, des femmes, des jeunes gens connaissant la stratégie de Dieu, parce que Dieu leur aura révélé cette stratégie. Les desseins du diable ne leur sont pas inconnus. Les desseins du diable ne leur sont pas inconnus, parce qu'ils n'ont pas l'intention d'être circonvenus par le diable. Ils connaissent la stratégie de l'ennemi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le peuple est enseigné au combat spirituel. C'est pour que vous soyez rompus à l'art de la guerre spirituelle. Et que nous prenions des éléments de Josué pour bien comprendre comment nous devons combattre. Je vous le dis d'avance, c'est Dieu qui combat pour nous. Nous ne sommes que les instruments de Dieu pour voir la victoire se réaliser. Mais la victoire est déjà acquise. Nous allons comprendre ces choses. Pourquoi une telle armée ? Pourquoi Dieu veut l'armée lever une armée puissante dans l'esprit, dans cette génération ? Pour une bonne raison. Parce que les ténèbres tombent de plus en plus fort sur la terre. Et dans ce combat, Dieu a besoin d'une église, d'une armée unie, hardie, forte, par la force du Saint-Esprit, par la force du Saint-Esprit qui conduit cette armée. Il a besoin, non pas d'une église timorée, non pas d'une église craintive, non pas d'une église peureuse, non pas d'une église qui veut éviter le combat, mais au contraire, il veut une église qui se tienne à la brèche, une église qui soit hardie, une église qui soit unie, une église qui soit forte par le Saint-Esprit de Dieu. Une génération sensible aux injonctions du Saint-Esprit, obéissante aux ordres divins, disciplinée dans le combat, unie, hardie, forte par la force du Saint-Esprit qui la conduit. Alors, nous allons voir quelles étaient les caractéristiques de ce vaillant guerrier qui était Josué, de ce guerrier victorieux qui a mené Israël dans la terre promise avec l'aide efficace de l'Éternel. Ce prototype de guerrier conduit par l'Esprit Saint qui a assujetti tous les peuples de Canaan. Tous les peuples de Canaan. D'abord, Josué a eu cette grâce infinie. Cette grâce qui lui a permis d'être aux côtés de Moïse. Mon frère, ma sœur, quand il y a un homme, une femme d'onction, c'est bon que tu sois à ses côtés pour bénéficier de l'expérience de cet homme ou de cette femme. Dieu désire que l'onction qui repose sur une personne qui la oint spécialement, puisse aussi reposer sur ceux qui l'entourent. Et tu dois rechercher cette onction de Dieu. Tu dois la rechercher près des serviteurs de Dieu. Non pas qu'ils soient meilleurs que les autres, mais parce que Dieu les a oints. Et tu ne pourrais empêcher Dieu de oindre un serviteur qui lui est agréable. Ainsi, Josué était aux côtés de Moïse. Un peu comme Élisée était à côté d'Élie. Vous savez, Élisée était allé à côté d'Élie pour une bonne raison. C'est que il apprenait d'Élie le ministère prophétique dans lequel Dieu l'avait appelé. Nous avons des exemples de pères spirituels que nous devons imiter. Je n'ai pas dit d'imiter ce qu'ils font. Je dis d'imiter la partie spirituelle dans laquelle Dieu les mène. Il est dit dans Exode 24:13 que Moïse se leva avec Josué qui le servait. Remarquez, Josué servait qui? Qu'est-ce qu'il servait, Josué? Il se servait pas lui-même, il servait Moïse. Il n'y a pas un homme qui s'est élevé en Israël comme Moïse, avec lequel Dieu parlait bouche à bouche. Mon serviteur Moïse, mon ami Moïse. Et quand vous arrivez, avec la grâce de Dieu, devenir ami d'un homme d'onction, vous pouvez demeurer sur la même onction que lui. Dieu vous couvre de l'onction de cet homme. L'onction n'est pas quelque chose qui doit nous rendre plus beaux et plus forts que les autres. L'onction que Dieu veut mettre sur nous doit nous rendre encore plus amoureux des brebis, plus amoureux de l'Église, plus amoureux du peuple de Dieu. Car une onction sans amour n'est pas une onction, c'est de l'orgueil. Donc Josué servait Moïse. Josué qui servait Moïse, à un moment donné, Dieu dit, prends de ton esprit et mets-les sur les anciens d'Israël. Regardez comme c'est puissant. Dieu dit, prends de l'onction qui est sur toi et mets-le sur mon serviteur Philippe. Sur les 70 d'Israël. Et quand Moïse a mis de son esprit sur les 70 anciens d'Israël, ils se sont mis tous à prophétiser. Il y avait même des personnes dans le camp que Moïse n'avait pas, sur lesquelles Moïse n'avait pas répondu de son esprit, qui prophétisaient. Et Josué, qui était à côté de Moïse, va lui dire, « Oh, mon Seigneur, ces gens-là, tu ne leur as pas répondu ton esprit, ils prophétisent, fais-les taire. » Et Moïse va dire ceci, « Je préfère que tout le peuple soit un peuple de prophètes. Église, tu es prophétique. Il n'y a pas qu'un seul ministère de prophètes dans l'Église. L'Église est, dans son ensemble, prophétique. Vous êtes tous prophétiques. Vous êtes des actes prophétiques dressés par Dieu dans ce monde. » On va le voir comment Dieu agit au travers de ces actes prophétiques. Autre chose, frères et sœurs, c'est un grand privilège de pouvoir côtoyer et servir des hommes et des femmes d'onction et de gouvernement comme le fut Moïse pour Josué. Nous devons apprendre avec beaucoup d'humilité de ceux et de celles qui sont des pères et des mères dans la foi. Nous sommes jamais suffisants à nous-mêmes. Nous sommes interdépendants les uns des autres dans le royaume de Dieu. Répète avec moi, nous sommes interdépendants les uns des autres. Tu peux pas dire Philippe que tu n'as rien à voir avec Théo. Et je peux pas dire Francis, je n'ai rien à voir avec Georges, ou Georges avec Stéphane, ou Stéphane avec Philippe, l'autre palsy. Nous sommes interdépendants les uns des autres. Et nous devons apprendre de nos frères les choses que Dieu a mises dans leur vie. Nous devons avoir un regard compatissant, un regard bienveillant sur nos frères qui ont reçu des choses de Dieu. Ils peuvent être pour nous des exemples. Il est dit que c'est un grand privilège de pouvoir côtoyer et servir des hommes d'onction et de gouvernement. Josué, en outre, avait une caractéristique que peu avaient dans le peuple d'Israël. Il était en quelque sorte, écoutez bien, il était en quelque sorte le gardien du tabernacle. Oui, puisque l'Écriture nous donne un renseignement si précieux pour notre foi, qu'il demeurait sans cesse dans la tente, même quand Moïse n'y était pas. Nous trouvons ça dans Exode 33, 11. L'Éternel parlait à Moïse face à face. Oh, regardez, l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit? Désormais, je ne vous appelle plus frère, mais ami. Ami, c'est quelqu'un qui rentre dans la confidence. Ami, c'est quelqu'un en qui tu peux te confier. Ami, c'est quelqu'un que tu trouves dans toutes les épreuves de ta vie, fidèle à tes côtés. Un ami. Pas les amis de circonstance, comme dans le midi. Tu es ami, on s'est vu 2 minutes, c'est mon ami. Non, non, non. L'amitié s'éprouve dans la fidélité. Vous savez, dans le midi, on se fait vite des amis, soi-disant. On s'est vu une fois, on a pris l'apéro une fois, on est des amis. Mais c'est faux. L'amitié doit être éprouvée par le déroulement de la vie. Un ami est fidèle en tout temps, dans les bons et dans les mauvais moments. Il est dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Il retournait au camp. Quand il avait eu sa rencontre avec l'Éternel, il retournait au camp, au milieu du peuple. Mais, son jeune serviteur, Josué, fils de Noun, ne sortait pas du milieu de la tente. Vous comprenez quand Dieu va donner l'ordre à Moïse de passer le bâton à Josué? Dieu l'avait préparé. Josué, il était dans la tente, il était dans la présence de Dieu. Matin et soir, il ne sortait jamais de la tente. Ainsi doit être notre communion avec Dieu, matin et soir, sans jamais sortir de la présence de Dieu. Dès que tu sors de la présence de Dieu, tu vas te tenir devant la présence du monde. Mais tu vas dire, mais comment je peux faire ça? Comment je peux faire cela? Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu gardes tes valeurs intrinsèques, c'est-à-dire les valeurs du Saint-Esprit en toi. Tu te conformes pas au monde présent en adoptant son langage, en adoptant ses choses. Tu dois te différencier du monde. C'est ça, un homme, une femme née de nouveau. Il transporte avec lui, il porte avec lui les valeurs du royaume de Dieu. Il ne sortait pas du milieu de la tente. Cela nous fait-il pas penser à un passage des Écritures dans Matthieu où Jésus va dire quelque chose un peu de semblable? Il va dire, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta chambre à clé. Et là, dans le secret, parle à ton Père qui est dans les cieux. C'est quand tu es dans le secret de ta chambre que tu es au milieu de la tente. C'est quand tu es en communion avec Dieu que tu es au milieu de la tente. Dieu n'a-t-il pas dit, ils me feront un tabernacle et j'habiterai au milieu d'eux. Et l'Écriture nous dit, ils me feront un tabernacle et j'habiterai en eux. L'intention de Dieu, c'était d'habiter dans l'intériorité des enfants d'Israël. Et cela se l'a réalisé parce que Jésus vit en nous. Il a dressé un tabernacle vivant en nous. En nous. Pas à l'église. En nous. En nous. Et la version de la Septante dira cette chose extraordinaire. Ils me feront un tabernacle et je serai vu en eux. En eux. Je serai vu en eux. Il faut que les gens voient que Jésus vit en toi. Qu'il a dressé un tabernacle en toi. Josué était constamment dans la présence de Dieu. Dans la tente, lieu par excellence de sa présence. N'avait-il pas reçu de Moïse lui-même une part supérieure de l'Esprit Saint sous l'ordre de l'Éternel? Par quel moyen avait-il reçu cette part supérieure de l'Esprit? Par quel moyen, frères et sœurs? Ben écoutez, ce geste spirituel que Moïse a fait par rapport à Josué, c'est le même geste que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Par quel moyen? Par l'imposition des mains. Tu peux transmettre l'onction par l'imposition des mains. Tu peux transmettre à un homme et une femme que Dieu appelle à quelque chose de spécial, à quelque chose qui va servir le royaume de Dieu. Dieu peut déposer sur toi l'onction qui demeure sur le serviteur. Regardez dans le livre des Nombres au chapitre 27 et au verset 18 à 20. Retenez ces principes spirituels. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Noun, un homme en qui réside l'Esprit. » Donc, nous sommes bien d'accord que Josué avait l'Esprit Saint déjà en lui. Mais il avait besoin d'une capacité, il avait besoin d'une qualification supérieure de la part de l'Éternel pour accomplir les desseins de Dieu pour le peuple de Dieu. Il avait besoin d'une onction plus grande, plus puissante. Alors que l'Écriture nous dit que en lui résidait l'Esprit, Dieu va dire à Moïse, pose ta main sur lui. Et pour attester que cette part de l'Esprit Saint qui allait être attribuée à Josué pour le qualifier, pour faire entrer le peuple en Canaan, Dieu a mis deux témoins. Moïse, son ami, et qui encore? Éléazar, le sacrificateur, le Lévite. Celui qui sert aussi Dieu, celui qui est dans la présence de Dieu. Et que tous se fassent sur la déposition de deux ou trois témoins. Moïse et Éléazar, le sacrificateur. Et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres devant leurs yeux. Oh, oh. Ça n'a pas été fait en catimini. Cette chose, cet acte que Moïse va faire sur Josué, ça va être fait aux yeux de tout l'assemblée du peuple d'Israël. Il faut que le peuple soit témoin que Dieu est en train d'une onction spéciale un serviteur pour accomplir tous ses desseins. Regardez bien ce qu'il est dit, frères et sœurs, parce que pour nous, c'est une grande joie. Pour ceux qui savent qu'ils ont l'onction de Dieu sur leur vie, il est dit ceci, verset 20, « Et tu mettras sur lui de ta gloire, afin que toute l'assemblée d'Israël l'écoute. » Afin que toute l'assemblée d'Israël l'écoute, et tu mettras sur lui de ta gloire. Savez-vous que l'onction de l'Esprit sur nos vies, le Saint-Esprit qui réside en nous, c'est la gloire de Dieu en nous, où tu n'as pas encore réalisé, où l'Écriture ne t'a pas enseigné que le Saint-Esprit qui réside en toi, c'est la gloire de Dieu qui repose en toi. Car l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de gloire, c'est l'Esprit de puissance, c'est l'Esprit d'amour, c'est l'esprit de paix, c'est l'esprit de joie. Moïse, mon ami, avec qui je parle face à face, Moïse, va, prends Josué, un homme en qui réside déjà l'Esprit Saint, et pose ta main sur lui. Ça veut dire que si, mon frère, ma sœur, si tu as reçu le Saint-Esprit, et tu veux de la part de Dieu, quelque chose que Dieu veut te donner pour te qualifier encore plus hautement, alors... Peut-être il y a un Moïse dans l'église qui va venir t'imposer les mains pour recevoir une part encore supérieure pour que tu fasses et que tu accomplisses ton service devant Dieu. L'onction de l'Esprit va donner du dynamisme à Josué, va lui donner la vision à Josué. L'onction du Saint-Esprit, cette part encore supérieure qu'il va recevoir, va lui accorder discernement, sagesse. Ne te contente pas d'un petit Saint-Esprit en toi. Laisse Dieu te remplir totalement. Il faut qu'un jour, vous et moi, nous arrivions à dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce jour-là, tu auras réalisé combien l'œuvre de Dieu est grande dans ta vie. Apparemment, Josué avait déjà reçu l'Esprit, mais il fallait que cette onction augmente pour avoir la capacité. Il faut que cette onction augmente sur ta vie pour avoir quelle capacité de gouverner et de diriger plus tard le peuple. Il reçut cette nouvelle onction par l'imposition des mains de Moïse. Le tout attesté par la présence significative du sacrificateur Éléazar et ce devant les yeux de tout le peuple pour que le peuple voit que ce que Dieu est en train de oindre, ça doit se faire devant tout le peuple comme étant témoin de ce que Dieu est en train d'accomplir. Voilà la première chose que Dieu va faire pour Josué. Pour le faire rentrer dans le combat spirituel, pour le faire gagner le combat de Canaan, pour abattre devant lui toutes ces nations. Dieu n'est pas un Dieu sanguinaire, nous allons voir pourquoi ces nations ont été abattues. Voilà la première préparation que Dieu a faite avec Josué. Il l'a rempli de l'Esprit Saint pour le préparer à gagner le combat de la conquête de Canaan. Et pour ça, il fallait qu'il reçoive sa crédibilité devant tout le peuple. Maintenant, cette chose est en fait. Premier point. Pour entrer dans le combat spirituel, il faut que tu sois loin de l'Esprit de Dieu et rempli du Saint-Esprit. Ne va pas combattre spirituellement si tu es à côté de Dieu et pas en Dieu. Deuxièmement, après l'onction, préparation à la guerre. Deuxième principe spirituel. Voyez-vous, je continue ce combat spirituel que nous voyons tous les mardis. Je veux avancer parce qu'il y a un sujet tellement grand que je veux en même continuer à vous dire pendant les dimanches ces choses parce que c'est tellement important. C'est tellement important. Préparation à la guerre. Tu ne peux pas rentrer dans un combat spirituel. Tu ne peux pas toi-même exercer la guerre spirituelle si tu n'as pas été rempli de l'Esprit et si tu n'as pas fait alliance avec Dieu. Bérit alliance avec Dieu. Josué était celui qui prépara le peuple à entrer en Canaan et pour cela, il amena le peuple à faire alliance avec l'Éternel. Où a-t-il fait cette chose? Où Josué a-t-il préparé le peuple à faire alliance avec l'Éternel? Où l'Église du Seigneur a été préparée à faire alliance avec le Seigneur pour rentrer dans le combat spirituel, pour gagner cette ville, pour gagner cette France? Pour gagner le terrain sur l'ennemi. Simplement, il faut aussi que l'Église ait fait alliance avec le Seigneur. Regardez ce qu'il est dit. En Josué 5, versets 2 à 3. Josué donc a été celui qui prépara le peuple à entrer en Canaan. Pour cela, il amena le peuple à faire alliance avec l'Éternel. À Gilgal, le premier lieu où ils se sont arrêtés. Pourquoi se sont-ils arrêtés à Gilgal? Pourquoi Dieu leur a dit de s'arrêter là? Parce qu'il était nécessaire qu'avant de faire alliance avec Dieu, que Dieu roule l'opprobre de l'Égypte sur le peuple d'Israël. Il fallait que Dieu ôte cet opprobre, comme Dieu ôte l'opprobre du monde sur nos vies. Dieu doit rouler l'opprobre à Gilgal, qui signifie rouler, action de rouler, de rouler. Le peuple fut circoncis à cet endroit. Et la circoncision à cette époque, circoncision de la chair, était le signe par excellence de l'alliance avec Dieu. Mais vous allez voir que c'est pas encore tout à fait ce que Dieu avait décidé. Dieu dit maintenant il faut que tu fasses, que le peuple fasse alliance avec moi. Il faut qu'avant d'entrer dans la conquête et en guerre, il faut que le peuple fasse alliance avec moi. Il faut qu'il soit circoncis. Comment? Il est dit qu'ils ont été circoncis avec des pierres tranchantes. C'est ces pierres tranchantes qui ont circoncis le peuple. Mais qu'est-ce que c'est la circoncision de la chair, frères et sœurs? La circoncision de la chair pour Israël, c'était d'ôter le prépuce sur le sexe des hommes. Cette petite anneau comme une alliance qui va être découpée dans la chair. Pourquoi? Parce que sous ce prépuce, c'est là où vont se loger toutes les impuretés de l'homme. Et quand Dieu dit de circoncire la chair, quand Dieu dit il faut que la pierre tranchante passe sur le prépuce, il faut que cette alliance se fasse parce que vous ne pouvez pas entrer dans la guerre de Canaan tant que vous n'avez pas fait alliance avec moi. Tu ne peux pas rentrer dans le combat spirituel avec Dieu si tu n'as pas fait alliance avec Dieu. Tu comprends ça? Si tu n'as pas fait alliance avec le Seigneur, tu ne peux pas rentrer dans le combat spirituel. Ou alors, l'ennemi va te défaire. Il va avoir une déferlante sur ta vie. On ne se moque pas de Dieu comme on ne se moque pas de l'ennemi. Ne te méprends pas. Ne va pas attaquer le royaume des ténèbres avec ta seule force humaine, avec ta seule chair, avec ta connaissance intellect. Tu vas te faire ébranler. Ta vie va être ébranlée pour un moment. Ne va pas te dresser contre Satan si Dieu n'est pas avec toi, si tu n'as pas fait alliance réellement dans ton cœur avec Dieu. Je ne parle pas de la circoncision de la chair comme Israël, je parle de la circoncision de ton cœur. Josué 5, verset 2 à 3. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les fils d'Israël. Oh, c'est la deuxième fois qu'il est circoncis. On va voir pourquoi. Et Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les fils d'Israël à la colline d'Aralot. Vous savez ce que ça veut dire en hébreu, Aralot? Ça veut dire montagne des prépuces. Imaginez 1 million d'hommes circoncis. Ils devaient avoir un sacré tas de prépuces. Ça s'est appelé la montagne d'Aralot. C'est comme un témoignage de l'alliance du peuple d'Israël avec l'Éternel. Pourquoi fallait-il les circoncire une seconde fois? N'y avait-il pas eu à la Pâque déjà une alliance avec Dieu? Mais c'est que frères et sœurs, réfléchissons, soyez un peu intelligents, soyons ensemble intelligents. Souvenons-nous des Écritures. Toute la génération qui est sortie de l'Égypte, où est-elle? Morte dans le désert. Et les enfants qui sont nés ont été à la porte de Canaan, mais n'avaient pas été circoncis. Il fallait que Josué passe une seconde circoncision pour les enfants nés de la génération qui était dans le désert. Et nous allons le voir dans cette référence. Josué 5, verset 2 à 10. Il est dit ceci. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait pas été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il a établis à leur place. Et Josué les circoncis car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'il eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à la guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans la plaine de Jéricho. Frères et sœurs, non seulement il y a eu une seconde circoncision pour tous les enfants qui sont nés dans le désert, et Dieu a voulu que cette génération qui naît dans le désert fasse alliance avec lui par le moyen de la circoncision. Mais Dieu dit à ce moment-là, à travers cette génération-là qui est née dans le désert, à travers eux, j'ai roulé l'opprobre de vos pères qui étaient en Égypte. Car les fils ne doivent pas payer pour le péché des pères. Chacun paiera pour son propre péché. Mais Dieu a en vue un peuple saint. Dieu a en vue une nation sainte. Et Dieu ne peut pas permettre à des enfants qui sont nés dans le désert de rentrer en guerre sans être passé par la circoncision et sans être passé par l'alliance. C'est comme toi. Tu ne peux pas rentrer dans la guerre spirituelle si la circoncision de ton cœur n'a pas été faite devant le Seigneur. Et si l'alliance n'a pas été faite avec le Seigneur. Dans une alliance, il y a deux parties. Il y a toi et le Seigneur. Il faut que tu scelles cette alliance. Et le signe par excellence qui va montrer que cette alliance a été faite, c'est la circoncision de ton cœur. Cette partie que nous voyons là, qui est subjective du récit biblique, se rapporte à une phase précise de la vie spirituelle. Il serait funeste, écoutez bien, il serait funeste et aberrant à l'enfant de Dieu d'entrer en guerre avec Satan et avec les adversaires de l'Église du Christ en s'appuyant simplement sur le seul fait qu'il est mort avec Christ, à moins qu'il ne permette au Saint-Esprit d'user envers lui de la pierre tranchante et d'opérer une séparation entre lui-même et le péché, entre la chair et le monde, ce qui revient à dire que la croix est une puissance de séparation qui doit être appliquée à notre vie en toute réalité. Cette expérience de l'histoire d'Israël en est une frappante illustration. La chair doit être maintenue sous la lame tranchante du glaive de la croix. Le glaive de la croix doit trancher. Il doit diviser entre la chair et l'esprit. Car si nous tolérons dans notre vie de l'indulgence pour nous-mêmes ou quoi que ce soit de douteux et que nous essayons de prendre l'offensive contre l'adversaire, il se retournera contre nous et prenant avantage du terrain qui a échappé à la croix, il nous accablera avec une puissance effrayante. Tous les terrains qui ont échappé au glaive de la croix sont une possibilité de Satan d'attaquer. C'est la préparation à la guerre. Tu ne peux pas rentrer dans ce combat spirituel si ces choses n'ont pas été accomplies dans ta vie. Si l'œuvre de la croix, chaque jour, ne fait pas ce qu'elle doit faire dans ta vie, si le glaive de la croix ne sépare pas encore les choses, que tu retiens les choses, parce que se donner à Dieu totalement, c'est s'abandonner entre les mains du Seigneur, abandonner sa vie, abandonner ses projets, abandonner son intelligence, abandonner sa personnalité, abandonner sa position sociale, abandonner son argent, abandonner ses projets, abandonner ses voyages, abandonner, tout abandonner entre les mains du Seigneur. Notre alliance avec le Seigneur par le moyen de la circoncision du cœur roule de dessus nous l'opprobre du monde. Roule de dessus nous l'opprobre du monde. La circoncision de notre cœur roule de dessus nous l'opprobre du monde. Car c'est de nos cœurs que sortent les mauvaises pensées. Ce n'est pas ce qui rentre dans ma bouche et qui passe dans mon corps, qui va dans le lieu secret, qui me souille. C'est ce qui me souille, c'est ce qui sort de mon cœur. Les mauvaises paroles, les vols, les adultères. Et j'en passe, et des meilleurs, Jésus donne le listing, vous le connaissez aussi bien que moi. Ôter le prépuce de notre cœur équivaut d'enlever toutes sortes d'impuretés, de souillures, de toute espèce. C'est aussi dompter nos passions déréglées, toutes sortes de dérèglements. En fait, toutes ces choses bouchent notre cœur, et c'est comme une cuirasse sur notre cœur. Regardez ce que Dieu dit, il le disait déjà dans l'Ancienne Alliance, dans Deutéronome 10 et verset 16, voici ce que Dieu va dire. Il va dire, circoncisez donc votre cœur. Vous voyez qu'il n'est même plus question ici de chair. Là, hein. C'était déjà l'anticipation de la nouvelle alliance. Je leur donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau, mais pour cela il faut que le cœur soit circoncis. Deutéronome 10, verset 16, on va donner quelques précisions sur ce verset. Qu'est-il dit ? Circoncisez donc votre cœur, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et terrible qui ne fait point exception de personne et qui ne prend pas de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve et qui aime l'étranger pour lui donner le pain et le vêtement. Et vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, et tu te tâcheras à lui, et tu jureras par son nom, lui, il est ta louange, et lui, il est ton Dieu. Ôter le prépuce de nos cœurs, ça équivaut à enlever toutes les impuretés de nos cœurs. Ça équivaut à rouler l'opprobre que le monde avait déposé dans nos vies. Et cette circoncision qui fut collective du peuple d'Israël, va précéder l'apparition d'un homme avec son glaive à la main qui se présenta devant Josué à Jéricho, première étape de la conquête. Voilà, l'ange de l'Éternel va se présenter avec le glaive à la main. Le peuple était préparé pour entrer en guerre. L'ange est là avec le glaive à la main. Ça y est, il attend. On va pouvoir rentrer. Ça y est, l'opprobre du monde a été roulé. La circoncision du cœur a été faite. Et maintenant, l'alliance a été faite. On peut maintenant rentrer dans le combat. Tu ne peux pas combattre si ton cœur encore est encombré de choses impures. L'ange était prêt d'aider Josué pour la conquête de Canaan, car les conditions étaient remplies. Tu veux rentrer en guerre dans le combat? Il faut que les conditions soient remplies. Vous vous rappelez ce que j'enseignais? Seigneur, merci, parce que cela, je l'avais reçu du Saint-Esprit. Je vous avais dit un jour, il y a des règles charnelles pour combattre dans l'arène, selon les règles de l'arène, mais il y a des règles spirituelles pour combattre le combat spirituel. Et les voilà, elles sont là. Quelles sont-elles ces règles? Et voilà, l'alliance avec Dieu et la circoncision du cœur et être rempli du Saint-Esprit comme Josué avait reçu une passe supérieure de l'Esprit. Josué 5, versets 13 à 15. Il arriva comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva ses yeux et vit. Et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans sa main. Et Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte ta sandale de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. L'Éternel combat avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu a dit, « Je te donnerai le pays » et Dieu va leur donner le pays. Et c'est même pas eux qui vont combattre, c'est Dieu qui va combattre pour eux. Eux, ils vont être simplement spectateurs dans l'action de la délivrance que l'Éternel leur donne. Je souriais tout seul quand je faisais cette prédication, parce qu'à un moment donné, dans le livre de Josué, Dieu dit, restez tranquille, vous allez voir ce qui va se passer. Et ils ont commencé à poursuivre leurs ennemis, et des grosses pierres sont tombées du ciel. Et il y a eu autant de morts par les pierres qui sont tombées du ciel que par les ennemis tués par l'épée. C'était Makeda. Et vous allez voir, quand vous êtes soumis à Dieu, et quand vous êtes rempli de l'Esprit, avec une part supérieure que Dieu vous donnait pour vous qualifier dans les choses que Dieu attend de vous, quand vous avez fait une véritable circoncision du cœur, une véritable alliance avec Dieu, vous pouvez compter sur Dieu, que Dieu peut même arrêter le soleil et la lune. À un moment donné, le prophète Ésaïe va dire ceci, « Commandez-moi et vous verrez pas si je fais pas ce que vous me dites de faire. » Comment peut-on commander Dieu? Si tu es ami de Dieu, oui, Dieu peut accomplir la chose que tu lui demandes. Commandez-moi, dit l'Éternel. Commandez-moi, comment puis-je commander Dieu? Comment puis-je le commander? Si je n'ai pas une intimité profonde avec lui, où je vais demander quelque chose à Dieu, il va dire, oui, je vais te le réaliser, mon fils. Tu veux que le soleil s'arrête? Le soleil va s'arrêter. Tu veux que la lune s'arrête? La lune. Vous savez que ce fait historique, véridique, a amené les scientifiques à revoir l'heure dans leurs calculs. Parce que c'est un fait indéniable qu'à un moment donné, le soleil dans sa course s'est arrêté et la lune aussi. Où? Vous allez voir où? Sur Gabaon. Josué n'était qu'un instrument visible. C'est Dieu qui en est le véritable chef. Il se tenait avec l'épée à la main. Pourquoi va-t-il dire à Josué, quitte tes sandales car ce lieu est saint? Est-ce qu'un ange aurait dit ça à Josué? Non. Dieu, oui. La guerre que Dieu déclenchait par le moyen de Josué était dirigée contre les hordes sataniques cachées derrière les Cananéens. Vous vous rappelez ce que Dieu avait dit à Abraham? Et comme la coupe d'iniquité sera arrivée à son comble, alors je déposséderai devant toi les Amoréens et les Cananéens. Or, dans ce pays, les habitants de ces pays, du pays de Canaan, tous ceux qui y vivaient, avaient fait monter la coupe d'iniquité jusqu'en haut par leurs pratiques démoniaques. Ceux-ci pratiquaient la sorcellerie, la magie, et plusieurs parmi eux avaient communion avec les esprits familiers, c'est-à-dire les démons. Ils étaient adeptes de la magie noire. En conséquence, ce n'était pas contre les Cananéens eux-mêmes que la guerre était déclarée, mais contre les puissances sataniques auxquelles ces peuples s'étaient livrés et auxquelles ils rendraient un culte sous forme et différentes formes d'idoles. Et c'est ce que Paul va reprendre dans Éphésiens 6. Il a dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Tous ces peuples-là étaient sous l'influence et sous la possession de Satan. Vous rappelez ce que le prophète Isaïe disait quand le Sheol voit Lucifer descendre dans le Sheol. Est-ce bien toi qui subjuguais toutes les nations? En fait, Josué va nous enseigner d'une manière admirable et efficace le vrai cheminement pour sortir plus que vainqueur de toutes sortes de situations qui vont se présenter devant nous, car nous sommes en guerre. Nous avons comme Josué la certitude que tout lieu que la plante de leurs pieds foulerait leur avait été donné d'avance. Chaque pas que Josué faisait en Canaan avec le peuple, ça avait été donné d'avance par Dieu. Ils n'avaient plus qu'à rentrer dans la promesse. Et c'est en même temps Dieu qui combattait pour eux. Quand nous aurons compris cette chose, quand nous aurons assimilé cette chose dans notre esprit, dans tous les combats que nous menons, c'est Dieu qui gagne la guerre de mon combat. Et pas moi avec mes forces, mais Dieu et Dieu seul. Josué, chapitre 1, verset 2 à 3. Moïse, mon serviteur, est mort. Et maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je leur donne à eux, les fils d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné, comme j'ai dit à Moïse. Il leur a dit qu'il leur donnerait le pays, mais c'était à eux de marcher. Dieu te donne la victoire. C'est à toi d'entrer dans la victoire. Est-ce que tu comprends ça, Église? Ils avaient à marcher, à prendre possession du pays à pied, car Dieu ne leur avait pas mis dans les mains ces pays en disant, maintenant non, vous le possédez et vous n'avez plus rien à faire. Il leur avait dit, je vous l'ai donné, maintenant vous devez en prendre possession pas à pas. Dieu dit, je te donne ta famille. Et la promesse est certaine, mais c'est à toi d'entrer en possession pas à pas dans la conquête de ta famille. C'est à toi de les gagner par ta douceur, par ton amour, par ta foi, par ton témoignage. C'est à toi. Je ne parle pas des zizanies qu'on peut avoir entre personnes. Je parle de quelque chose de plus important que les problèmes de la chair. Je parle d'une réalité spirituelle qui va emmener ta famille dans le salut. Qu'ai-je en ai à faire de la chair? Qu'est-ce que j'en ai à faire des regards? Qu'est-ce que j'ai à faire de toutes ces choses-là? Ce que je sais, c'est que le Seigneur veut que nous rentrions dans la victoire car il nous a donné des promesses. Josué devait savoir que le territoire qui s'étendait devant lui, lui avait été donné par l'Éternel à Israël. Et avant qu'il commence à le conquérir, avant que de ses actes découle toujours une attitude de foi en une victoire assurée. Tu veux gagner le combat, il faut que tu sois dans une attitude de foi. Si tu crois, toi et toute ta famille sera sauvée. Combien de fois je vous ai dit, posez votre foi sur ce verset. Entrez maintenant en possession de la victoire de ce verset. C'est à vous de rentrer pas à pas dans la victoire. Dieu vous a donné votre famille. Il ne peut pas en être autrement. Dieu veut que toutes nos familles lui appartiennent. C'est le projet et les intentions de Dieu. N'est-il pas dit qu'il a donné un agneau par maison de père? Est-ce que Jésus n'est pas l'agneau pour nos familles? Dieu, dans sa promesse, lui dit simplement, le pays va être donné. Vous avez fait alliance avec moi. Toi, Josué, je t'ai donné une onction pour gouverner, pour diriger. Vous avez circoncis vos cœurs. Vous êtes rentré dans l'alliance avec moi. Alors, moi, ce que je te demande, Josué, c'est simplement cette chose. Fortifie-toi seulement. Tout enfant de Dieu doit être attentif à cela dans le combat actuel. Nous sommes responsables de ne pas nous laisser décourager, ni déprimer, même pour un instant. En cédant aux tentations de l'ennemi qui veut détourner nos yeux de Dieu. C'est pas ce que tu vois qui est important, c'est ce que tu ne vois pas. C'est pas les petites choses qui sembleraient pourrir un peu ta vie parce que il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ci. Tiens-toi à la promesse de Dieu. Tiens-toi à la promesse de Dieu. Il y aurait beaucoup de choses à dire, frères et sœurs, beaucoup de choses à dire. Fortifie-toi seulement. Soyons persuadés que tout découragement vient de l'ennemi et que nous ne devons pas céder ou y donner accès, et cela à aucun prix, quelles que soient les circonstances. Alors, par quel moyen Josué devait se fortifier? Voilà encore un autre principe spirituel. Tu ne peux pas engager un combat spirituel si auparavant tu n'es pas rentré déjà dans les premières promesses que Dieu nous donne pour gagner la guerre. Mais il faut aussi, quand tu rentres dans le combat, que la parole de Dieu demeure enracinée dans ton cœur. Comment Josué va-t-il se fortifier? Par quel moyen? Va-t-il passer des heures en prière? Va-t-il chercher auprès de Moïse un regard compatissant pour que... Puisque Moïse était déjà mort, donc il n'avait même pas regardé Moïse. Allait-il voir Aaron? Il était déjà mort. Sur qui devait-il s'appuyer pour pouvoir voir cette conquête du pays de Canaan être réalisée? Se fortifiant par quel moyen? La parole de Dieu est la clé de toute victoire. Comment et de quelle manière? En agissant fidèlement selon toute la loi. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ne te détourne pas de la parole de Dieu afin que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprendras. Fortifie-toi seulement dans la bonne parole vivante et permanente de Dieu, demeurant enraciné, fondé et établi dans la parole du Seigneur. Obéissante, obéissance implicite, indéfectible à la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, une arme offensive redoutable dont nous tirons notre autorité. Regardez ce que dit Josué 1:8. Il dit ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche et médite-le une fois par semaine. C'est bien suffisant. Non. Dieu va dire à Josué: médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde, afin selon tout ce qui a été écrit. Car alors tu feras réussir ta voie et alors tu prospéreras. Il y a deux choses qui nous font prospérer dans la vie spirituelle. Il y a deux choses. La parole de Dieu et la confession des péchés. Celui qui couvre ses transgressions, il ne prospérera point. La parole de Dieu et la confession des péchés nous feront prospérer spirituellement. Parce que nous aurons autorisé le glaive de la croix à venir faire la séparation en nous. Médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. Alors tu feras réussir tes voies et alors tu prospéreras. Josué 1:9, ne t'ai-je pas commandé? Fortifie-toi et sois ferme. Ne te laisse point terrifier et ne sois point effrayé, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Partout où tu iras. Ces paroles nous révèlent le fait que Dieu est là, présent avec nous, qu'il est intimement lié avec ses propres résultats. Courage et intrépidité sont indispensables à la victoire. Une guerre. Il y a beaucoup dans la guerre terrestre des gens qui ont reçu des médailles à cause de leur courage et à cause de leur intrépidité. Ils ont fait des exploits. C'est la même chose sur le plan spirituel. Courage et intrépidité sont indispensables à la victoire. Être fortifié dans l'être intérieur par la parole de Dieu, jour et nuit, à tel point qu'on ne la perde pas de vue. L'homme et la crainte que l'on a de lui. Voilà un grand remède pour être affranchi de tout découragement et de toute terreur devant la puissance de l'ennemi. Frères et sœurs, la parole de Dieu dans nos cœurs, plantée enracinée en nous, ne nous fait craindre personne. Si, une seule personne. Mais comme Dieu est esprit, nous devons craindre Dieu, mais pas les hommes. Quelque situation que tu vis, conflictuelle avec les hommes, tu ne dois pas craindre l'homme. Tu dois craindre Dieu. Et dans l'Apocalypse, il dit ceci: crains Dieu et adore. Crains Dieu et adore. Malgré toutes ces choses, frères et sœurs, malgré que l'Éternel avait préparé tout son peuple pour que la victoire, n'est-ce pas, leur soit acquise, malgré toutes ces certitudes, nous devons nous méfier des stratagèmes de l'ennemi. Car l'homme est toujours l'homme. Malgré que tu sois rempli du Saint-Esprit, malgré que tu aies circoncis ton cœur avec l'aide de Dieu, malgré que tu aies fait alliance avec Dieu, malgré que la parole de Dieu demeure en toi, faisons attention au stratagème de l'ennemi. Et Josué, lui, il est tombé dans un piège, malgré toutes ces choses. N'avait-il pas reçu une double portion de l'esprit pour diriger et gouverner? N'avait-il pas amené le peuple à l'alliance? N'avait-il pas obéi aux moindres ordres de Dieu? Ne s'est-il pas fortifié dans la parole toute-puissante de Dieu? Malgré cela, il était vulnérable. Et regardez dans Josué 9, versets 1 à 16, ce qui s'est passé. Méfions-nous des stratagèmes de l'ennemi. Il arriva que lorsque tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et le pays plat, et sur tout le rivage de la grand-mer, jusque vers le Liban, le Héthien, l'Amoréen, le Cananéen, le Phérézien, le Hévien, le Jébusien, eurent entendu ces choses, ils se réunirent ensemble pour faire la guerre à Josué et à Israël d'un commun accord. Et les habitants de Gabaon entendirent ce que Josué avait fait à Jéricho et à Haï. Et qu'est-ce qu'il est dit? Ils usèrent de ruse eux aussi. Ils vont piéger Josué. Écoute bien, c'est pas parce que tu as l'onction de l'esprit sur ta vie que tu peux pas être piégé. Ils usèrent de ruse aussi avec eux. Ils se mirent en route, préparés comme pour un voyage, et prirent de vieux sacs sur leur âne, et de vieilles outres à vin crevassées et recousues, de vieilles sandales rapiécées à leurs pieds, de vieux habits sur eux, et tout le pain de leur provision était sec et c'était moisi. Mamma mia, quelle admirable pièce de théâtre qu'ils ont jouée. Ils allèrent vers Josué, au camp de Gilgal, ils leur dirent, et aux hommes d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné, et maintenant traitez alliance avec nous, alors qu'ils étaient juste à côté. » Ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Et Josué leur dit, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Ils leur dirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, au nom de l'Éternel ton Dieu. » Que des menteurs, ils se réclamaient de Dieu. Ils disent qu'ils viennent d'un pays très 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 lointain. Ton Dieu, car nous avons entendu sa renommée, et tout ce qu'il a fait en Égypte, et tout ce qu'il a fait aux deux rois des Amoréens, qui étaient au-delà du Jourdain, à Sihon, roi de Heshbon, et à Og, roi de Bazan, et qui étaient à Ashtaroth. Et nos anciens, tous les habitants de notre pays, nous ont parlé, disant, prenez avec vous des provisions pour la route, et allez de haut devant d'eux, et dites-leur, nous sommes vos serviteurs, et maintenant traitez alliance avec nous. C'est ici notre pain, nous le prîmes chaud de nos maisons pour nos provisions, le jour que nous partîmes pour venir vers vous, et maintenant voici, il est sec, il est moisi. C'était faux. Et les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, et voilà le malheur, et on n'interrogea point la bouche de l'Éternel. Vous savez, quand la bonne volonté de l'homme veut faire les choses sans se référer à Dieu, on se fait tromper. Combien de fois ça nous est arrivé? On n'interrogea point la bouche de l'Éternel. Josué fait la paix avec eux, traite alliance avec eux pour les laisser vivre, et les princes de l'assemblée s'obligèrent envers eux par serment. Il arriva qu'au bout de 3 jours, après avoir traité alliance avec eux, ils entendirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Ils avaient menti. Ils avaient dit qu'ils venaient d'un pays très lointain, qu'ils avaient fait alliance avec Dieu. Regardez que leur pain était moisi, et alors qu'ils habitaient au milieu du peuple d'Israël pratiquement. Ils ont trompé Josué. Ils usèrent de fraude. Josué fut pris au piège. Les Gabonites se mirent au profit d'une alliance qui leur laissait la vie sauve, alors que Dieu les avait voués à la mort. Ils arrivèrent à ce résultat en usant de stratégie. Voilà ce que sont les pièges, les subterfuges de l'ennemi. Josué fut trompé par les apparences. Méfions-nous des embûches cachées derrière les apparences. Oh, paraître très spirituel. Qu'est-ce qu'il prie bien? Qu'est-ce qu'elle prie bien? Ils arrivèrent à ce résultat en usant de stratégie. Donc, méfions-nous des apparences. Maintenant, pour terminer, Josué a accompli des actes prophétiques. Et nous devons comprendre la portée de ces actes. Par exemple, oint d'huile un serviteur en vue du service. L'huile en soi n'est rien qu'un symbole. Ce n'est pas tant le geste non plus, mais bel et bien l'acte prophétique qui est symbolisé par le geste. Car se faisant ainsi, l'homme ne sait pas ce que Dieu va lever au travers de cet acte prophétique. Dieu pose des actes prophétiques par l'intermédiaire de l'homme, et l'homme ne sait pas ce que Dieu va lever. Nous allons voir 2 exemples. Donc ce n'est pas le fait de oindre la personne d'huile. Ce n'est pas le fait que l'huile soit d'olive ou pas d'olive. Ce n'est pas les apparences qui comptent. C'est l'acte prophétique que tu accomplis parce que Dieu te l'a demandé. Alors nous allons voir, pour terminer, les actes prophétiques qui ont été accomplis par Josué. Jacob, oignant d'huile l'autel à Bethel, il a accompli un acte prophétique d'une grande portée. Jésus va reprendre ces mêmes paroles. L'autel dressé et oint, c'est l'œuvre de la croix qui permet à Christ de monter vers le Père dans sa position de vainqueur. Désormais, il peut monter et descendre vers les hommes. Il est monté après sa résurrection, il va redescendre lors de son retour. Et le fait que Jacob ait oint d'huile l'autel et qu'il a vu les anges monter et descendre, C'était un acte prophétique que Jacob accomplissait, que plus tard, Christ allait réaliser. Je vous dis, frères et sœurs, il n'y a rien dans l'Écriture qui n'a été écrit au hasard. Dieu donne à l'homme des pistes. L'homme, par le Saint-Esprit, avec la grâce de Dieu, doit comprendre les points que Dieu a laissés, comme les balises, n'est-ce pas, sur un terrain d'aviation. Les balises vont t'indiquer l'endroit où tu dois atterrir. Ainsi, Dieu a mis des balises dans sa parole pour nous éclairer. Beaucoup des actes dans l'Écriture ont eu un impact capital dans la victoire. Rappelez Moïse, face à Aaron, quel était l'acte prophétique qu'il a fait? Il a jeté la verge. Est-ce que Moïse savait ce que la verge allait devenir? Non, il ne le savait pas. Mais il avait obéi, il avait fait l'acte. Et la verge est devenue un gros serpent qui a mangé tous les serpents des magiciens. Voilà un acte prophétique. Jacob a oint d'huile l'autel à Bethel. Bethel, Baït El, la maison de Dieu. Et là, quelque chose s'est passé. Un acte prophétique a été dressé, qui plus tard sera réalisé par le Christ. Josué 8, 18. Voilà ce que Josué va faire. L'Éternel dit à Josué, « Étends vers Haï le javelot qui est dans ta main, car je la livrerai entre tes mains. » Et Josué étendit vers la ville le javelot qui était dans sa main. Voilà, il prend un javelot, il étend vers la ville d'Haï. Mais qu'est-ce que ça a à voir, le javelot tendu vers la ville d'Haï? Quel va être l'impact de ce javelot? Qu'est-ce que va pouvoir faire Josué avec un simple javelot dans sa main, pointé vers Haï pour conquérir la ville? S'il ne se bouge pas avec son javelot pour y aller, il ne sera pas participant à la victoire. Mais Dieu lui dit, reste là et pointe ton javelot vers Haï. Et le résultat, nous allons le trouver un peu plus loin, dans Josué, au verset 28. Il est dit, du chapitre 8, Josué ne retira point sa main qu'il avait étendue avec le javelot jusqu'à ce qu'on eût entièrement détruit tous les habitants d'Haï. Vous savez, ça me fait penser... En lisant ce texte, ça me fait penser au prophète qui est venu chez la veuve en Israël et qui lui avait demandé d'apporter des vases pour remplir d'huile. Elle a apporté quelques vases et le prophète a rempli ces quelques vases. Il lui dit, mais si tu en avais apporté plus, tu en aurais eu plus. Et l'obéissance de Josué, c'est qu'il a tenu le javelot pointé vers Haï sans comprendre, mais Dieu lui a donné la victoire parce que par sa simple obéissance, il dressait un acte prophétique de victoire de l'Éternel sur cette ville d'Haï, qui va avoir une conséquence sur toute la conquête de Canaan. Souvenons-nous aussi de Moïse avec Aaron et Hur sur la montagne, alors que le brave Josué était déjà en bas en train de combattre Amalek qui poursuivait les fugitifs d'Israël en queue de peloton. Quel était l'acte prophétique? Quel était cet acte? Simplement que Aaron et Hur tenaient la main de Moïse. Comment se faisait-il que chaque fois que Moïse baissait les mains, l'ennemi avait le dessus? Mais chaque fois que Moïse et Aaron, Hur et Aaron levaient les mains de Moïse, ils avaient la victoire. Il a tenu jusqu'à la nuit, comme Jésus a tenu le javelot, jusqu'à ce que la victoire ait lieu. Des fois, nous ne comprenons pas les actes prophétiques que Dieu veut poser avec nous. Mais nous devons obéir. Ensuite, ces choses étant faites, cette préparation à la guerre étant faite, par le moyen de l'Esprit Saint qui doit remplir nos vies, par l'alliance, la circoncision de nos cœurs, par l'alliance avec Dieu, par la préparation au combat, par les actes prophétiques dressés, alors Israël a gagné et a eu la victoire. Souvenons-nous, frères et sœurs, que malgré toutes ces choses, l'ennemi peut nous berner avec les apparences. Qu'est-il dit? Josué 24, versets 28 à 31. Il est dit ceci, Josué renvoya le peuple, chacun à son héritage. Il arriva après ces choses que Josué, fils de Noun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Et Israël servit l'Éternel tous les jours de Josué, tous les jours les anciens, dont les jours se prolongèrent après Josué, qui avait connu toute l'œuvre de l'Éternel qu'il avait faite pour Israël. Dieu avait promis de donner le pays de Canaan et de donner le repos dans le pays. Et en finalité, Israël trouve le repos parce que Dieu combattait pour eux. Mais il fallait que pour que Dieu combatte pour eux, que eux soient en harmonie avec les desseins de Dieu, avec les impacts spirituels qu'il peut avoir sur le peuple, pour que le peuple soit en conformité avec les désirs de Dieu pour leur faire gagner la guerre. Être rempli du Saint-Esprit, faire alliance avec Dieu, avoir nos cœurs circoncis, n'est-ce pas? Se préparer pour la guerre, hein, et être conduit par Dieu. Cette guerre, c'est pas notre guerre, c'est la guerre de Dieu. Dieu nous donne la victoire, frères et sœurs. Dieu nous donne la victoire. À nous d'y entrer dedans. Amen. Avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu.
Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net